Le journal Adrien Toffolet. Bonjour Adrien.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le port du masque obligatoire au collège et lycée, seul véritable aménagement du protocole sanitaire pour la rentrée des classes. Elle aura bien lieu le 1er septembre pour tous. Jean-Michel Blanquer balaye l'idée d'un report en raison du rebond de l'épidémie. Précision de Catherine Pétillon dans un instant.
Le coronavirus circule toujours plus en France. 4700 nouveaux cas enregistrés hier. Ce n'était pas arrivé depuis le mois de mai. Précise Santé publique France, ce qui pousse les autorités à généraliser encore un peu plus le port du masque. Cela reste la meilleure option en attendant un vaccin. Analyse de Mathieu Laurent.
Alexei Navalny ne sera pas évacué. Le médecin-chef de l'hôpital où l'opposant à Vladimir Poutine est soigné oppose son veto ce matin. État trop instable. Un avion médicalisé d'une ONG est pourtant en route pour la Sibérie afin de tenter de le rapatrier après son possible empoisonnement. Paris et Berlin proposent leur aide et demandent des explications. Vous entendrez Emmanuel Macron dans ce journal.
Le Liban meurtri se reconfine aujourd'hui face à la résurgence de l'épidémie de Covid. Deux semaines de confinement partout, sauf dans les quartiers sinistrés de Beyrouth. La tragédie a provoqué un relâchement de la population dans le respect des règles sanitaires. Reportage d'Aurélien Colli.
Et puis direction le Yémen, où les rebelles Houthis et l'ONU ne s'entendent pas sur l'inspection et la réparation d'un pétrolier abandonné au large de ce pays et qui menace d'exploser. C'est une inquiétude tenace chez les enseignants et les parents à moins de deux semaines de la rentrée. Dans quelles conditions va-t-elle se dérouler? Ils n'avaient jusqu'à présent qu'un protocole sanitaire datant de juillet pour répondre à leurs interrogations. Sauf que depuis, la situation de l'épidémie en France a évolué dans le mauvais sens. Interpellé depuis plusieurs semaines, Jean-Michel Blanquer est finalement allé donner quelques précisions hier soir au JT de France 2. Pas de grand changement par rapport au protocole élaboré cet été, pas de report de la rentrée, rentrée pour tous maintenue au 1er septembre, mais quelques aménagements à noter tout de même sur le port du masque, notamment obligatoire au collège et lycée. Catherine Pétillon.
La rentrée aura bien lieu pour tout le monde le 1er septembre. Le ministre de l'Éducation a rejeté l'idée d'un report demandé par certains syndicats enseignants inquiets de l'augmentation des cas de Covid-19. Tous les élèves devront donc être en classe, sauf exception justifiée par un certificat médical, a insisté Jean-Michel Blanquer.
L'éducation n'est pas une variable d'ajustement ni de notre société, ni d'une crise sanitaire. L'éducation, elle est plus importante que jamais. Le protocole qui a été élaboré au mois de juillet prévoit tous les types de situations et établit un certain nombre d'éléments qui nous permettent d'assurer les deux objectifs que nous avons, qui sont premièrement la protection de tous, les élèves et les adultes, mais aussi l'éducation pour tous, qui est quelque chose de fondamental et qu'on ne saurait minimiser.
Seule nouveauté, le masque sera obligatoire dans tous les endroits clos pour les personnels et les élèves de plus de 11 ans, et ce en toutes circonstances, et non plus seulement lorsque la distanciation n'est pas possible. Au personnel, ce masque sera fourni par l'Éducation nationale. Pour les élèves, le masque est une fourniture comme une autre, a expliqué Jean-Michel Blanquer, comme on vient avec sa trousse et ses cahiers. À côté de cette règle générale, Jean-Michel Blanquer a néanmoins laissé la porte ouverte à des aménagements territoire par territoire selon la situation sanitaire.
S'il y avait une plus grande circulation du virus dans les temps à venir dans un territoire donné, alors nous pourrions accentuer certaines mesures, typiquement des mesures mixtes, on peut dire, c'est-à-dire un peu d'enseignement à distance, un peu de présence pour avoir des plus petits groupes d'élèves. Nous y sommes prêts, y compris sur le plan pédagogique, avec des heures de cours enregistrées, avec l'enseignement à distance qui est prêt. Et ça, dès le mois de septembre, en cas de nécessité.
Si des cas apparaissent, des tests seront effectués dans l'établissement concerné pour ensuite remonter la chaîne de contamination, a expliqué le ministre. Cela pourrait ensuite aller jusqu'à des fermetures de classes ou d'écoles, si nécessaire.
Aménagement pour les enseignants de maternelle également. Le ministère a précisé dans la soirée que pour eux, le port du masque serait simplement recommandé et non obligatoire. Pas de quoi rassurer les syndicats enseignants qui accusent Jean-Michel Blanquer de nier la réalité de l'épidémie. Ça manque de précision sur les échanges entre classes et sur le fonctionnement des cantines scolaires, considère le SNUIPP, le principal syndicat du primaire. On en vient justement à l'épidémie de coronavirus en France, avec les dernières données publiées hier soir par Santé publique France. On observe ces dernières 24 heures une progression inédite du virus depuis mai, avec plus de 4700 nouveaux cas détectés. Une très légère augmentation du nombre de cas graves en réanimation, mais sur une note positive, une diminution toujours du nombre des hospitalisations. Bonjour Mathieu Laurent.
Bonjour Adrien et bonjour à tous.
Le renforcement du port du masque, on l'a entendu juste avant, arrive maintenant à l'école. De nombreuses communes l'imposent désormais en extérieur. Toulouse aujourd'hui, l'agglomération entière du Mans demain. Voilà les réponses proposées par le gouvernement en attendant un vaccin qui pourrait arriver rapidement, si l'on en croit Emmanuel Macron, dans les prochains mois, a-t-il expliqué hier soir.
On ne peut pas mettre le pays à l'arrêt parce que les dommages collatéraux d'un confinement sont considérables. C'est encore Emmanuel Macron qui parle, déclaration à Paris Match il y a quelques quelques jours et pourtant l'épidémie avec ses inégalités territoriales tend à s'aggraver, martèle la Direction Générale de la Santé. Les institutions, Adrien, multiplient les communiqués. L'Élysée agite le spectre d'un reconfinement. Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon à Paris, est l'auteur d'un carnet de bord intitulé « Nous n'étions pas prêts ». Question que nous lui avons posée, la parole politique est-elle cette fois à la hauteur des enjeux ?
Je pense que le président dit qu'on n'élimine aucune hypothèse. C'est aussi pour dire aux Français que la question du reconfinement leur appartient aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un appel à la responsabilisation des Français d'une certaine manière.
Qui a réussi cet appel cette fois ?
Il est réussi. Si vous regardez les suites des deux derniers matchs de football où les Français étaient engagés, vous voyez qu'il n'est pas tout à fait réussi. Si vous regardez ce qui s'est passé au Puy du Fou, vous voyez qu'effectivement, il y a des prises de risques qui se font en réunissant 9000 personnes, même avec des équipements, c'est un peu compliqué. Donc je pense que le message, pour l'instant, n'est pas encore totalement passé. Il va falloir être didactique, et didactique pour les plus jeunes, notamment, avec des messages qui ne stigmatisent pas les jeunes qui ont payé très cher le confinement, et surtout, effectivement, de tout ce qu'on doit faire pour pas qu'il y ait un reconfinement.
Et le praticien de recommander d'armer sans tarder la médecine de ville, qui n'est toujours pas prête à faire face au rebond épidémique, et de tester tant et plus. Le niveau de dépistage stagne, souligne Santé publique France.
Mathieu Laurent, merci. On reste encore avec Emmanuel Macron. Le président de la République s'est exprimé hier depuis le fort de Brégançon, juste après sa rencontre avec la chancelière Angela Merkel, sur l'état de santé d'Alexei Navalny, empoisonné selon ses proches. Alors qu'il voyageait hier en avion, il est depuis hospitalisé à Omsk, en Sibérie, dans un coma sous respirateur. Emmanuel Macron, comme Angela Merkel, se sont montrés très clairs et réclament des explications. On les écoute.
Nous sommes évidemment extrêmement préoccupés et attristés par la situation d'Alexandre Navalny et nous avons appris ce qui lui était arrivé. Et je veux ici dire que nous lui apportons tout notre soutien à lui, à sa famille, à ses proches pour un prompt rétablissement et nous sommes à leur côté. Les nouvelles que nous avons à cette heure sont extrêmement inquiétantes. Nous continuons de suivre très près la situation. Nous en avons discuté avec Madame la Chancelière. Nous sommes évidemment prêts à apporter toute l'assistance nécessaire à Alexandre Navalny, à ses proches, sur le plan sanitaire, sur le plan de l'asile, de la protection, c'est évident. Bien sûr, là aussi, toute la clarté devra être faite sur les circonstances qui ont conduit à cette situation. Et nous serons extrêmement vigilants sur les suites et les enquêtes qui seront menées.
Cette nuit, un avion médical d'une ONG allemande a décollé d'Allemagne pour tenter de faire rapatrier Alexei Navalny. Ce matin, le médecin-chef de l'hôpital de Omsk balaye d'un revers toute évacuation sanitaire. Il n'est pas transportable car son état est instable, justifie-t-il.
8h08 sur France Culture, la suite du journal d'Adrien Toffolet. Au menu des discussions entre Angela Merkel et Emmanuel Macron, on trouvait également la contestation en Biélorussie.
L'Union européenne doit continuer à se mobiliser aux côtés des Biélorussiens. Russe qui manifeste pacifiquement, assure le président français. Il appelle à un dialogue entre les autorités et l'opposition qui doit être mis en place avec comme médiateur, pourquoi pas, l'UE et la Russie. Pendant ce temps, les manifestations en Biélorussie continuent malgré plusieurs jours d'accalmie. Le président Alexandre Loukachenko entend rétablir l'ordre. En France, des milliers de Biélorusses vivent cette situation à distance et certains se mobilisent pour soutenir les manifestants dans leur combat pour la liberté et contre la dictature. Benjamin Recouvreur en a rencontré hier à Paris, où une action était organisée.
Devant la fontaine des Innocents au cœur de Paris, une vingtaine de Biélorusses se tiennent droit, drapeau blanc et rouge à la main, solidaires de leurs compatriotes. Alicia est ingénieure, installée en France depuis 7 ans.
On essaye de soutenir les gens qui se battent pour la démocratie, parce que nous, on habite en France, on voit ce que c'est que la démocratie.
Soutenir la démocratie et dénoncer la répression policière que leurs proches vivent de très près depuis 10 jours. Alice a 37 ans, elle tient une photo d'une victime de la police dans ses mains. Ancienne opposante politique, son frère a passé 3 jours en prison.
Quand j'entends et je vois tous les témoignages sur les personnes qui étaient battues, sur les personnes qui étaient violées dans les prisons de Bélarus, moi, mon cœur se déchire.
C'est douloureux d'être loin, disent-ils, mais l'espoir d'un changement est présent. Alexei a 30 ans.
Moi, j'ai senti l'espoir quand tout le monde s'arrêtait, la grève nationale. Les gens, quand même, ont compris ce qu'ils ont vécu pendant 26 ans.
Ces Biélorusses font tout ce qu'ils peuvent pour aider leur pays et demandent l'aide de l'Europe, comme le raconte Alicia.
On essaye d'écrire des lettres officielles au ministère de l'Extérieur, au président, par exemple, à la Commission européenne. J'espère que les gens vont nous entendre et vont nous aider.
Dimanche, ils se réuniront à nouveau à Paris pour une chaîne humaine qui devrait traverser une trentaine de pays européens.
Benjamin Recouvreur. Aux États-Unis, il est officiellement l'opposant numéro 1 à Donald Trump dans la course à la présidence. Joe Biden a été investi hier candidat démocrate après 4 jours d'une convention sans grand raout public. Comme à l'habitude, à cause de l'épidémie de coronavirus, il a prononcé un discours d'une vingtaine de minutes. Il promet de mettre un terme à la période de ténèbres que traverse actuellement l'Amérique et se pose en rassembleur. Quelques heures plus tôt, son opposant, donc Donald Trump, a de nouveau affirmé sans retenue que Biden ne pourra gagner que si l'élection est truquée. Quant à son ancien conseiller Steve Bannon, l'éminence grise de Donald Trump lors de l'élection de 2016, écarté du pouvoir depuis quelques années, il a été inculpé hier par la justice américaine pour fraude et blanchiment d'argent. Il est soupçonné d'avoir détourné des centaines de milliers de dollars d'une campagne de financement participatif pour aider à la construction du mur à la frontière mexicaine. Steve Bannon a plaidé non coupable, il a été libéré sous caution mais risque la prison. Le Liban se reconfine à partir d'aujourd'hui pour 2 semaines. Le pays fait face à une flambée de contamination Covid autour de 500 par jour pour 4 millions d'habitants, 10 fois plus qu'au printemps au pic de la première vague. Principale explication, l'explosion dans le port de Beyrouth, bien entendu, il y a 17 jours. Dans le chaos qui a suivi, plus aucune mesure barrière n'a été respectée. À Beyrouth, la correspondance d'Aurélien Colli.
Dernière distribution alimentaire avant le confinement dans le quartier de Ras El Naba. Ici, les dégâts sont plutôt limités, mais la crise économique a fait basculer des centaines de familles dans la précarité.
Ils s'en foutent carrément du Covid.
Fadi coordonne l'aide des ONG dans ce quartier.
Les gens ont tellement de soucis. Même si vous faites un confinement, les gens ne vous écouteront pas.
Difficile de réguler le flux et d'imposer les distances. Même le port du masque n'est plus respecté par des Libanais à bout de nerfs. Tout ferme à cause du corona, alors que le pays va si mal. Il y a l'explosion, la guerre qui menace. Nous, on veut juste manger, explique Hassan. Covid, masque, confinement, des mots qui ont encore moins d'écho dans les quartiers ravagés. Les gens ne se soucient plus de rien. S'ils meurent, ils meurent. S'ils vivent, ils vivent, résume Amar devant un immeuble en lambeaux. Ici, pas de confinement, bien sûr, pour ceux qui ont tout perdu, ni pour les ONG qui essayent désormais d'être exemplaires.
Chaque personne a 5 masques dans sa poche. On prend la température et on est 2 groupes, 10 à 10. Et il y a la distanciation, tout le temps. Maintenant, les gens... Yanni, tu peux rien dire de faire attention, leurs maisons sont détruites.
Reprendre le contrôle de l'épidémie est pourtant une urgence nationale selon les autorités, sous peine de voir le secteur hospitalier totalement saturé.
Aurélien Colli. Au Mali, l'opposition appelle le peuple à descendre dans la rue et à célébrer la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta tout à l'heure. Grand rassemblement patriotique devant le monument de l'indépendance à Bamako. La junte hier a promis la mise en place d'un président de transition, un civil ou un homme issu de l'armée, précisent les militaires, pour prendre la place d'Ibrahim Boubacar Keïta. Des discussions sont en cours avec l'opposition, la majorité et la société civile pour une transition, disent-ils, la plus courte possible. L'inquiétude est grande au Yémen. Des désaccords entre les rebelles, Houthis et l'ONU empêchent jusqu'à présent l'inspection et la réparation d'un pétrolier abandonné au large de ce pays. Les Nations Unies avertissent que le tanker pourrait exploser et provoquer une marée noire. Une nouvelle catastrophe en perspective pour un pays déjà meurtri par une guerre interminable, Christian Chéneau.
C'est une bombe flottante au milieu de la mer Rouge. Avec plus d'1 million de barils de pétrole dans ses soutes, le FSO Safer est ancré depuis 2015 au large du port yéménite de Hodeïda, une ville contrôlés par les rebelles Houthis. Ces derniers avaient pourtant donné leur feu vert mi-juillet pour une inspection du navire par des experts de l'ONU, mais rien ne s'est passé depuis. Le Conseil de sécurité des Nations Unies avait pourtant mis en garde contre une catastrophe si le FSO Safer n'était pas réparé au plus vite. Vieux de 45 ans, le tanker est utilisé comme plateforme de stockage, mais depuis 5 ans, il n'est plus entretenu. Résultat, toute sa structure s'érode et fragilise sa coque qui menace de relâcher le brut dans la mer Rouge. Une fuite a déjà été signalée dans le système de refroidissement, causant une inondation partielle de la salle des machines du navire. Les dommages potentiels en cas de marée noire seraient dévastateurs pour l'écosystème de la mer Rouge, ainsi que pour la centaine de milliers de pêcheurs yéménites. Ce serait une nouvelle catastrophe pour le Yémen, déjà ravagé par la guerre, la famine et les maladies.
Christian Chéneau, la météo du jour, des nuages à prévoir dans le nord et l'ouest du pays, de la pluie des Landes jusqu'aux Ardennes et sur la pointe bretonne et le Cotentin. Grand soleil sur le reste de l'Hexagone. Ce matin au plus frais, il fera 18 à Brest, au plus chaud 27 degrés à Lyon. Cet après-midi, ça monte, 21 à Cherbourg, 26 à Bordeaux et à Amiens, 28 à Paris, 31 à Marseille et Ajaccio et 35 à Lyon et Strasbourg.